Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le fameux Flash Résultat. Avant d'écouter Guillaume Avril que nous avons reçu dans Culture Sport, on va faire le point sur les résultats du week-end en commençant par le football et la Coupe de France. Une Coupe de France malheureusement où les deux derniers clubs charentais encore en lice se sont fait éliminer. La séance des tirs au but a été fatale à nos deux derniers représentants puisque la CFC et Merpin sont tombés à l'issue des pénaltys. On va commencer par la CFC qui recevait Trélissac au Stade Le Bon. Le match des retrouvailles hein, puisqu'Hervé Louba qui entraîne désormais Trélissac revenait à Le Bon, un stade où il a entraîné pendant 5 ans l'équipe d'Angoulême. Début de match très compliqué pour la CFC, un premier quart d'heure où c'est Trélissac qui ouvre le score par gouache sur une passe décisive d'Adama Diakité, l'ancien joueur de la CFC. Et puis au fil de la rencontre, Angoulême a pris le jeu à son compte, s'est créé des occasions et c'est sur coup de pied arrêté à la 44e minute que Angoulême égalise. Le corner de Léo Fichten est repris par Corentin Lémoni qui marque son premier but depuis 6 ans, le défenseur central de la CFC, et qui permet donc aux Angoumoisins de revenir à un partout à la mi-temps. En seconde période, une petite domination de Trélissac dans le premier quart d'heure, et puis après ça s'est équilibré, c'est parti d'un but à l'autre, on avait la sensation que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, et quand ça bascule trop d'un côté ou de l'autre, eh bien ça se termine par une égalité. Et donc les pénaltys, et malheureusement une séance des pénaltys, où côté Angoumoisin, le maître et Mourabit ont raté les deux premiers tirs côté Charentais. En face, Sengasaki a raté pour Trélissac, mais les quatre autres Trélissacois n'ont pas tremblé. Et donc c'est Trélissac qui ira au prochain tour, et donc c'est Trélissac qui affrontera les Girondins de Bordeaux pour Angoulême. Rendez-vous vendredi prochain au Stade Le Bon à 19h30 contre Bergerac. On a été dans les vestiaires à la fin du match, on a donc vu les acteurs du match et David Jiguel, l'entraîneur David Jiguel, qu'on écoute tout de suite.
On est déçus parce que le primordial en coupe, c'est d'être au tour d'après. Voilà, donc le résultat brut, voilà, il est frustrant et décevant. Après, quand on regarde d'un peu plus près le parcours qu'on a accompli en coupe, on est arrivé au 7e tour. On a passé les tours quelquefois avec difficulté, mais on les a passés quand même. On avait une équipe de Trélissac de qualité. Dans le contenu, on a plutôt répondu présent. Donc voilà, ça s'est joué au tir au but. Et les tirs au but, on sait que c'est une loterie. Ça ne nous a pas souri cette fois-ci. C'est comme ça.
Vous prenez malheureusement le but d'entrée. Vous avez mis pour moi un gros quart d'heure à entrer dans le match. Est-ce que du coup, il y a le regret d'avoir raté ce premier quart d'heure?
Ouais, d'autant plus qu'on voulait rentrer, on voulait rentrer rapidement dans le match. On savait que Trélissac rentrait vite dans ses mi-temps, avait un peu plus de mal à les finir. Donc voilà, on s'est un peu fait surprendre sur un centre côté gauche. Faudrait revoir le but, mais l'attaquant passe un peu devant nos défenseurs. Donc on a mis un petit peu trop de temps à rentrer dans cette mi-temps. Après, on a plutôt été bon, que ce soit défensivement ou offensivement, on a réussi à créer des situations, voire des occasions. Et puis on égalise juste avant la mi-temps sur un coup de pied arrêté. Donc c'était plutôt intéressant. Voilà, après la deuxième mi-temps, les deux équipes ont eu un peu leur période, leur temps fort, leur temps faible. Encore une fois, j'ai rien à reprocher aux joueurs. L'aventure qu'on a pu vivre en Coupe de France a été plutôt de qualité. On sort au pénalty contre une équipe de qualité aussi. Il faut vite se concentrer maintenant sur le championnat parce qu'on a un match important contre Bergerac vendredi.
C'est un match de Coupe de France, mais est-ce qu'il y a des enseignements retirés pour vos futurs matchs de championnat?
Oui, on a été plutôt intéressant dans la création. Voilà, il faudra qu'on soit plus vigilant dans les transitions, dans les équilibres et dans les transitions, parce que c'est là où on nous a un peu piégé Trélissac. On n'a pas été suffisamment réactif dans les transitions off-def. Donc il faudra être meilleur encore contre Bergerac à ce niveau-là. Mais ce qui m'a plu, c'est que les gars ont beaucoup donné. On a eu de la qualité. Dans pas mal de sorties de balles, on a bien occupé les couloirs notamment, où on a réussi à les déséquilibrer souvent et à amener le danger devant le but adverse. Donc voilà, il faudrait être un peu plus éveillé en début de match, ne pas concéder le premier but parce que ça fait souvent la différence en championnat. Mais en dehors de ça, au niveau de la qualité du contenu, c'était plutôt intéressant. Donc on devra s'inspirer aussi de ce qu'on a fait de bien durant ce match contre Trélissac.
Bon, et puis pas mal de blessés en ce moment, ça a permis à certains jeunes de se montrer. Noah Marchessault qui a été titulaire depuis la rencontre, et puis là il y a le petit Elmadi et
surtout le petit Nizan qui était très en vue en équipe réserve qui ont joué. C'est bien aussi de pouvoir compter sur ce petit vivier de jeunes.
Ouais, ça prouve que le club fait de la formation. Après, c'est pas toujours simple, mais bon, voilà, on a pas mal de blessés en ce moment, c'est certain. Ça nous handicape un peu parce que on préfère toujours avoir son effectif au complet quand on est entraîneur, surtout pour ce genre de match de coupe. Après, encore une fois, ceux qui ont joué ont plutôt répondu présent, donc ça c'est une bonne chose aussi. Et puis ça permet aux jeunes aussi de venir voir un peu comment ça se passe les matchs de niveau national 2 et de prendre de l'expérience. Et voilà.
Oui, parce qu'on avait eu le petit Guéné aussi qui était rentré contre Angers.
Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est important qu'ils voient l'exigence que demande le niveau N2. Et puis j'espère qu'on va rentrer au fur et à mesure, malgré tout, nos blessés, parce que voilà, l'effectif était un peu court, c'est vrai, ces derniers temps. Mais encore une fois, c'est pas une excuse. Les mecs qui ont joué ont plutôt été intéressants et voilà, ont pris leur chance. Donc voilà, il faudra s'inspirer de tout ça et puis bien se remettre, surtout parce que la coupe, quelquefois c'est compliqué d'en sortir. Là, il faudra qu'on soit psychologiquement suffisamment costaud pour s'en sortir, parce qu'on est sorti aussi avec les honneurs. Il y a des honneurs à sortir au pénalty contre cette équipe de Trélissac. Et puis s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien pour pouvoir enchaîner sur le match de Bergerac.
Là d'ailleurs, par rapport au staff, ça va être l'un de vos travaux cette semaine. La pré-coupe, essayer de parler aux joueurs pour pas que finalement cette élimination ait des conséquences sur Bergerac, sur les matchs suivants.
Oui, clairement. Il faudra qu'on discute tous, staff et joueurs. Et puis, de toute façon, on sait aussi qu'on ne serait pas allé en finale ou qu'on n'aurait pas gagné la Coupe de France. On espérait tous passer un tour supplémentaire. Parce que plus loin on va, et mieux c'est pour à la fois individuellement pour les joueurs, mais aussi pour le club. Voilà, aujourd'hui c'est terminé. On sait que notre pain quotidien, c'est le championnat. On sait que c'est un championnat difficile où il faudra vite prendre des points pour ne pas se faire peur, étant donné les 5 ou 6 descentes qui peuvent exister. Mais bon, j'ai confiance en ce que fait le groupe depuis le début de saison. On est plutôt en progression dans beaucoup de domaines, donc je me fais pas trop de soucis par rapport à l'avenir. Je suis certain qu'on va répondre présent contre Bergerac.
Et comme une bonne chose n'arrive jamais seule, on a aussi vu Noah Marchessault, l'attaquant de la CFC, le jeune attaquant de la CFC qui fêtait sa deuxième titularisation contre Trélissac. On l'écoute également tout de suite.
Bon, Noah, malheureusement, élimination ce soir au pénalty, comme l'an dernier, malheureusement, à Panazol. La séance de tir au but nous a été fatale. J'imagine que c'est une déception de s'en sortir par Trélissac.
Forcément, c'est une déception. Après, comme on dit souvent, les pénaltys, c'est la loterie. Et aujourd'hui, Trélissac a été meilleur que nous sur la séance de pénalty. Donc, c'est ceux qui sont passés. Après, c'est dommage. On perd à domicile. Il y avait du monde qui était venu aujourd'hui. Après, bon, voilà, on a fait le match qu'il fallait. On s'est tous donné. Et c'est la loi des pénaltys qui a donné la victoire à Trélissac.
Ouais, un premier quart d'heure compliqué. Vous encaissez le but. Mais derrière, sur la première mi-temps, vous contrôlez plutôt les débats. Et puis, vous égalisez logiquement avant la mi-temps.
Oui, c'est sûr. On a mis un bon quart d'heure à se mettre dans le match. Et on a encaissé ce premier but qui nous a directement réveillé. Et après, on s'est vite relevé. On a poussé toute la première mi-temps. Et on a réussi à égaliser avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps.
Et puis malheureusement, en seconde mi-temps, j'ai l'impression personnellement que Trélissac avait peut-être un poil plus le monopole que vous, en tout cas sur la première partie de la mi-temps. Et puis en fin de match, on a vraiment vu que ça pouvait aller d'un côté à l'autre. C'était vraiment un sixième tour complètement indécis.
Je pense que la deuxième mi-temps, les deux équipes se sont regardées et avaient peur un peu de se livrer pour subir une contre-attaque et perdre le match. C'est pour ça que les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps étaient un peu faussées et que les 15 dernières ont été un peu box-to-box et qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Je pense que sur la deuxième mi-temps, la victoire pouvait venir des deux équipes.
Oui.
Malheureusement, c'est la loi des pénalties qui a partagé tout ça.
Bon, alors ce soir, il y a élimination, mais vous n'avez pas perdu le match, un partout. Il y avait eu cette défaite contre Saumur, la petite défaite aussi aux Herbiers, mais depuis, vous êtes vraiment, vraiment bien. C'est un match aussi qui peut peut-être vous servir positivement sur le fait de se dire que ça fait un nouveau match où on ne perd pas.
Je ne sais pas si on va compter ça comme un match nul. Nous, on se fait éliminer, donc on voit plus ça comme une défaite. Après, c'est à nous de revenir lundi à l'entraînement, parce qu'il y a un gros match contre Bergerac qui arrive.
Et à titre personnel, c'était donc ta deuxième titularisation d'affilée après Angers. Je trouvais que tu avais fait un gros match à Angers, tu étais sorti, là aussi tu as eu un sacré client sur le dos. J'imagine que d'être titu, ça récompense un peu les efforts que tu entreprends là depuis un an et demi que tu côtoies le groupe A.
Ouais, c'est sûr, c'est comme j'avais dit précédemment, c'est dès que le coach me demande de répondre présent, je le fais. J'ai montré qu'à chaque rentrée, je pouvais être décisif et le coach m'a permis de montrer à Angers et m'a remis ce soir. Après, j'essaye de tout donner pour montrer que j'ai les capacités et que je peux jouer dans cette équipe.
Ouais, maintenant, le petit step en plus, ce serait de t'offrir ton premier but en National 2. C'est quelque chose que tu attends au final ou ça viendra naturellement quand ça viendra?
Je pense que c'est quelque chose que j'attends qui va me libérer, mais je suis pas obnubilé par ça. Je sais qu'un jour ou l'autre, il viendra et c'est avec le travail que ça va payer.
Dans l'autre match de Coupe de France de ce week-end, c'était la réception de Lège-Cap-Ferré National 3 pour Merpin qui est voulu en Régional 2. Un super match des Merpinois qui ont tenu en échec les Girondins jusqu'au pénalty. Et malheureusement, pénalty, Merpin a raté son quatrième tir pendant que Lège était en 4-5. Et finalement, c'est Lège-Cap-Ferré qui est qualifié pour le prochain tour. La formation de Philippe Ollier, l'ancien joueur de la ZAC, affrontera Châteauroux au prochain tour en championnat. En Régional 1, malheureusement, deux Charentais qui n'ont pas connu les victoires. Hein, Cognac a été tenu en échec un partout contre Panazol, tandis que la réserve de la CFC s'est inclinée 3-0 du côté de Boulazac. Au classement, la réserve de la CFC est 3e avec 8 points. Cognac est 13e avec 2 points. Classement quand même qui est tronqué par le fait qu'il y ait beaucoup de matchs en retard, puisque par exemple, Mérignac-Arlac, qui était encore en Coupe de France ce week-end, a 3 matchs en retard sur la réserve de la CFC. Donc ça va se décanter au fil que les matchs en retard vont se disputer. En Régional 2, en poule A, un bon nul pour le Roi, hein, qui après sa première victoire de la semaine dernière enchaîne du côté déchiré. Score final 0-0. Le Roi est 8e au classement avec 5 points. En poule B, Merpin, donc ça a vu son match reporté vu qu'ils étaient en Coupe de France. Charente-Limousine s'impose 2-1 contre Cozes, tandis que Cognac malheureusement s'incline 2-0 à Fontaine. Le compte, Cognac malheureusement est 11e avec 3 points, Merpin est 8e avec 6 points, mais Merpin compte beaucoup de matchs en retard du fait de son super parcours en Coupe de France, et Charente-Limousine est 4e avec 9 points. En poule D enfin, Sireuil a été tenu en échec à domicile par Nontron-Saint-Pardoux, tandis que Jarnac s'incline 6-1 à Saint-Émilion. Jarnac était pourtant leader de cette poule avant la journée, mais c'est la première défaite malheureusement pour les Jarnaquais. Au classement, Jarnac est 3e avec 9 points et Sireuil est 4e avec 9 points également. En poule C, Confolens bat Niolle l'Espoir 2-0, deuxième victoire consécutive pour les Confolentais. Dans le même temps, Ruffec bat Limoges Viginal 5-0 et profite de la défaite de Limoges Football à Panazol pour revenir à seulement 2 points de Limoges. Donc Ruffec est 2e avec 13 points et Confolens remonte à la 6e place avec 7 points. En poule F, la poule déjà rentée, Vindel s'incline à Coulommiers-Chamiers 3-2, La Roche-Rivière s'incline à Ribérac 3-1, Ruel s'incline à domicile contre Périgord-Centre 3-2, Soyaux bat Saint-Junien au prix d'une belle remontée 3-2, Saint-Aix s'impose à Verneuil-sur-Vienne 2-1, et enfin, Puymoyen s'impose à domicile contre Thénon-Limera 3-1. Au classement, Saint-Aix est premier avec 18 points, Puymoyen est 4e avec 11 points, Soyaux est 5e avec 10 points, Vindel est 8e avec 6 points, Ruel est 9e avec 5 points, et La Roche-Rivière enfin est 11e avec 4 points. Enfin, en poule G, l'Alliance 3B s'impose 3-0 contre Cabario. La formation d'Adnan Elarchi a gagné 5 matchs sur 5, est en tête avec 15 points, 15 buts marqués, 3 buts encaissés. C'est un super début de saison pour les Barbeziliens qui sont en tête de leur poule avec 15 points, 2 points d'avance sur le Racing Club de Bordeaux et sur l'Oubès. En première division de district, je vais donner les scores de cette sixième journée avec Roulé qui s'impose à Moutier 2-0, La Couronne-Brie 2 partout, Saint-Michel conforte sa place de leader en s'imposant à Leroy 3-0, les Portugais Dugon s'imposent 4-2 contre Basso, et enfin Champigny s'impose à l'Alliance 3B 1-0. Au classement, Cavalier seul de Saint-Michel, hein, 18 points en 6 matchs, deuxième Champigny 15 points et troisième Basso avec 12 points. En deuxième division, en poule A, Verdi fait 3 partout contre Ruffec, Chasseneuil bat Saint-Aix 2-0, Charente-Limousine s'impose à La Roche-Rivière 1-0, Montbron bat Bel Air 2-1, Mansle bat Aigre 2-1, et enfin Sireuil et Mornac font 1 partout dans le match au sommet. Premier Sireuil avec 14 points, deuxième Mornac avec 12 points. Enfin en poule B, Jarnac s'impose 4-0 contre Châteauneuf, Grande Champagne s'impose 2-1 à Sud-Charente, Nersac bat Saint-Brice 4-1, Chazel et Saint-Séverin font 1 partout, Montmoreau gagne à Champigny 3-1, et enfin Linard s'impose contre Ruel 2-1. Au classement, premier Linard avec 18 points, deuxième Grande Champagne 15 points, troisième Saint-Séverin 11 points, et quatrième, Champignal avec 10 points. En D1 féminine, l'Agis Soyaux jouait du côté de Dijon. Les Soyaux s'inclinent malheureusement 1-0, un but survenu en fin de match qui ne fait forcément pas l'affaire des socialisiennes. Dans les autres résultats, le Paris FC gagne à Montpellier 3-1, Bordeaux bat Guingamp 3-1, Le Havre bat Rodez 2-1, le PSG bat Reims 2-0 et enfin Lyon gagne à Fleury 1-0. Premier Lyon 18 points, deuxième le PSG 16 points, troisième le Paris FC 14 points, Soyaux est dixième avec 4 points, un point d'avance sur Rodez, le premier relégable. Un rappel sur le SA15 qui s'est incliné à Colomiers, 45-16. En national, l'UCS s'est incliné contre hier, une fin de match complètement cruelle pour Cognac, qui menait et qui s'est fait finalement cueillir 28-25. En handball, en national, une féminine, la CH renoue avec la victoire contre Bergerac, score final 35-29. Malheureusement, Cognac s'incline à domicile contre Rochefort-Saint-Julien 25-23. Au classement, la CH est 3ème avec 15 points et Cognac malheureusement est 13ème avec 6 points. En basket, belle victoire de la Couronne Basket à domicile contre Chantonnay, victoire 57-49. Les Couronnaises pointent à la 9ème place avec un bilan de 2 victoires et 4 défaites. On va terminer ce flash sport par 2 résultats. Deux informations. Le premier, c'est du triathlon. Clément Mignon termine 10ème aux mondiaux d'Alf Ironman. Belle performance pour le Charentais qui visait le top 10 et donc il a réussi à l'obtenir. Et enfin, sur le trail de Grand Cognac, c'était un trail avec la thématique d'Halloween. C'est Nicolas Pinault qui s'impose sur le 15 km et Valentin Michaud s'impose sur le 8 km. On retrouve tout de suite Guillaume Avril en interview dans Culture Sport. On va revenir avec lui notamment sur les championnats de France de judo qui auront lieu le week-end prochain à Toulon où le Julie Pierret tentera d'obtenir une nouvelle médaille nationale. Au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec, mais aussi attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire. Chaque lundi 19h-20h30, nous accueillons Guillaume Avril, directeur sportif de la Couronne Judo. Guillaume, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, bonjour à tous.
Bon, c'est toujours un plaisir de te voir. On s'était pas vu au Forum Sport Santé Environnement. On s'est dit, tiens, il faut qu'on prenne, avant les championnats de France, dont il va être question, qu'on prenne un rendez-vous un petit peu avec Guillaume pour qu'on puisse parler de l'actualité du club.
Avec plaisir. Parfait.
Déjà, bonsoir Guillaume. Avant de parler des championnats de France qui auront lieu donc le week-end prochain à Toulon, j'aimerais revenir sur l'actualité brûlante. C'est vos 3 sorties internationales avec notamment Julie Pierret, avec notamment la première sortie en Italie du côté de Riccione où Julie fait 5ème. C'était une bonne reprise pour Julie ?
C'était une bonne reprise. Julie, elle a toujours des soucis avec son genou. Elle avait, on refait vite l'histoire, mais elle avait eu 2 ruptures des ligaments croisés coup sur coup. Et puis en Belgique l'an dernier, elle s'est rompue le latéral interne, donc encore 3 mois d'arrêt. Et on avait recommencé à la remettre en activité sur l'European Open de Madrid début juin, avant les vacances. Cet été, elle s'est beaucoup entraînée. Puis on a redémarré, donc comme tu le disais, sur l'Italie, Riccione, début septembre. Donc elle prend une 5ème place à Riccione. C'était assez costaud. Il y avait du beau monde, donc elle fait de beaux combats. Elle va en demi-finale et elle rencontre sa compatriote Fanny Posit, qui est une combattante très très forte, médaillée mondiale. C'est une fille qui est connue, reconnue. Ça, elle fait un très bon match, Julie. Ça part au Golden Score et elle finit par céder au bout d'une minute de combat. Mais c'était une belle performance. Et après, effectivement, en place de 3, elle s'écroule face à Zenker, qui avait gagné Madrid au mois de juin. Et Zenker, c'est la championne du monde allemande, championne du monde junior allemande. C'est une fille en devenir. C'est quelqu'un de très jeune, très fort. Et Julie n'a pas été bonne sur ce combat-là. Donc on a toujours fait ce choix avec Julie de préparer les championnats de France qui sont toujours la même période début novembre en faisant des sorties internationales comme ça. Donc on a fait donc ensuite la Slovénie et l'Espagne, dernière compétition en date.
Ouais, donc la Slovénie, Julie fait 2ème et l'Espagne elle fait 3ème si je ne me trompe pas.
C'est ça. Elle fait 2ème en Slovénie, elle fait la finale et elle prend elle fait 2ème aussi en.
Ah pardon, 2ème.
Ouais. Non, que je me trompe. Oula, je mélange tout. Non. Elle perd elle fait la finale en Slovénie, effectivement, elle perd sur l'allemande Eagle.
Oui, exact.
Et oui, c'est ça, t'as raison, elle fait 3ème à Malaga.
En tout cas, c'est vrai qu'il y avait eu la préparation, notamment l'an dernier du côté de Sarajevo, et il y avait aussi la Serbie. Donc c'est bien la trois compétitions avant les France.
C'est ça, elle monte en rythme. Elle est c'est de mieux en mieux. Alors bon, elle fait deuxième à Malaga, pardon. Je mélange un peu les pinceaux. Oui. Les deux filles sont engagées sur ces compétitions-là, donc je mélange les résultats avec Morgane. Mais non, elle fait deux finales et elle perd les deux finales, Julie. Et elle perd contre une Française, donc en finale, oui, à Malaga. Malin. Et c'était la finale du championnat de France 2018. Donc Julie avait gagné en 2018. Là, elle s'incline en finale. Mais il nous reste encore 15 jours pour travailler, puis essayer d'être le plus performant possible à ce championnat de France.
Qu'est-ce qui lui a manqué, Guillaume, pour aussi bien à Malaga qu'en Slovénie, pour accrocher la plus haute marge du podium?
Ben Julie, ce qui lui manque, c'est de durer dans le temps sans se blesser. C'est ça qui est un petit peu compliqué. À chaque fois qu'elle est très bien, on est un petit peu interrompu par ses blessures. Et là, effectivement, on sort d'une période Covid qui est la même pour tout le monde. Mais il y a eu moins de combats pendant ces dernières années. Et donc là, Julie, elle a besoin de repères, elle a besoin de se confronter pour se régler. C'est-à-dire que nous, on se sert de ces compétitions-là pour corriger certaines choses, des poses de main, des séquences de travail précises, pour essayer d'avoir un petit peu toutes les filles en tête en face là, pour avoir les solutions à chaque fois. Donc on verra le championnat de France, les forces en présence. On ne sait pas qui sera à ce championnat de France, on ne sait pas quelles sont les stars qui vont être mises de côté pour plein de raisons, parce qu'il y a plein d'événements internationaux en ce moment, donc certaines athlètes de l'équipe de France seront certainement dispensées. Mais bon, voilà, ça, on retrouve toujours les mêmes, c'est toujours les Malonga, Chemeo, Post-Vite, la petite Dolin, tout, et puis les jeunes qui arrivent, les jeunes juniors qui montent en puissance.
Il restait 15 jours de préparation après Malaga, Julie. Qu'est-ce qu'on peut finir justement sur les 15 derniers jours là?
Là, on va réduire l'entraînement à partir de demain. Ce soir, ça va encore être costaud. Puis à partir de demain, on va rentrer dans une période où elle aura moins de quantité de travail, où on va faire un petit peu de vidéo aussi, bien avoir les idées claires sur les schémas tactiques à mettre en place sur les filles qu'elle va prendre. Donc voilà.
Du coup, tu vas faire un petit montage sur les combats de ses principales concurrentes.
Non, on reprend les combats ensemble, et puis on les commente, on essaie d'identifier les points positifs, négatifs, pas refaire les erreurs. Et voilà, Julie, elle aurait dû gagner la Slovénie, elle a paniqué, elle menait sa finale. Et elle a paniqué parce que l'autre, voyant qu'elle est menée, l'envahit, accélère. Et Julie a paniqué alors que le combat, pour moi, il était réglé. Donc ça, c'est des fautes qu'on doit gommer, bien être clair et lucide, même dans les moments, même dans le money time, quoi.
Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que elle a pris trois Françaises durant la prépa, donc c'est toujours bien d'avoir une petite répétition générale sur des filles qu'elle pourra peut-être reprendre sur les France.
Exactement, et puis il nous manque que les gros morceaux, hein, c'est-à-dire le Malonga, qui est le champion du monde à Tashkent, Chemeo qui elle est sortie sur le Grand Prix d'Abu Dhabi, sur le Grand Chelem d'Abu Dhabi la semaine dernière. Fanny Post-Vite, elle l'a prise, donc ça, on a déjà des repères. Et voilà, ça c'est le podium, hein, c'est les quatre filles, c'est les quatre meilleures 118 kilos françaises, et il va falloir passer le bras.
Et donc sur les deux dernières compétitions, donc que ce soit en Slovénie et à Malaga, Julie, elle n'était pas seule, puisqu'il y avait Morgane Artuis aussi en moins de 57 kilos. D'ailleurs, Morgane fait troisième à Koper, donc c'était vraiment une très belle reprise également pour elle. C'était intéressant, j'imagine, que pour elle aussi de se confronter à l'international, d'autant plus que la catégorie des moins de 57, c'est l'une des catégories où il y a le plus de combattantes.
Ouais, c'est une catégorie dense. Et puis Morgane, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Pas quelqu'un de doué à la base, mais par contre, c'est quelqu'un qui s'acharne au travail. C'est très respectable toute l'énergie qu'elle met en œuvre pour performer. Elle avait été championne de France deuxième division en fin de saison dernière. Donc c'est comme ça qu'elle intègre la première division. Et puis donc elle ne pouvait pas participer à Richon puisqu'elle n'avait pas les critères pour être sur ce genre de compétition. Mais par contre, on a pu la sortir sur les deux European Cup derrière, donc Slovénie et l'Espagne. Et elle prend une troisième place en Slovénie en battant la fille. Elle avait fait la Suisse. On avait fait la Suisse ensemble au mois de juillet. Elle n'est pas très bonne. Là, elle bat la fille qui gagne la Suisse. Donc,
en Slovénie et puis elle fait cinquième en Espagne. C'est intéressant, ça avance. Donc, j'espère qu'elle fera un très beau parcours sur le championnat de France première div. Elle n'a jamais été médaillée, Morgane, sur un championnat de France première div. Donc voilà, on espère que ce sera sa première.
Est-ce que tu peux nous faire un rappel historique du tracé de Morgane, Guillaume?
Alors Morgane Arthuis, c'est une fille qui n'a pas commencé le judo chez nous, c'est une fille qui est venue sur le tard chez nous, c'est une fille qui a été en équipe de France pendant de nombreuses années sur l'Institut du judo et partenaire à l'INSEP. Et c'est une fille, on a affronté son équipe très souvent puisqu'elle était d'Argenteuil au départ, chez mon copain Hassan Goudjil, avec Karisak Benyenou, avec une grosse écurie. Donc, c'est quelqu'un qu'on a eu en face de nous très souvent. Et puis là, elle arrive à 29-30 ans et on s'est toujours apprécié, on a toujours communiqué ensemble. Et puis là, pour ces dernières années, elle a dit, tiens, je vais tenter le pas à la couronne. Et donc, on a changé un petit peu ses méthodes de travail. Forcément, quand on intègre une équipe, il faut changer un petit peu les méthodes de travail et casser un petit peu ce qui se faisait avant. Et ça lui convient, on travaille bien ensemble. Donc voilà, ça avance et puis après on verra. Le championnat de France, c'est un championnat de France, c'est une compétition très dure. Le niveau, il est costaud en France, c'est une grosse nation, le judo français. Donc, il faut que ce soit son jour, il faut avoir une bonne étoile ce jour-là quand même.
Est-ce qu'elle a un travail en dehors du judo?
Oui, elle a réussi le concours d'inspecteur jeunesse et sport l'année dernière, donc c'était une bonne année pour elle. C'est-à-dire qu'elle a tout réussi. C'est marrant parce qu'elle n'était pas partie pour faire des études dans ce domaine-là et puis hop, elle s'est réorientée. Elle était brillamment reçue au concours d'inspecteur et donc voilà, c'est super. Elle est heureuse, posée et elle a la tête à ce qu'elle fait. Il n'y a pas de souci.
Oui, puis son arrivée aussi, elle est intéressante par rapport à l'équipe, parce que il y a des cadres qui ont arrêté, comme Louise Reynaud, Claire Pierret, ouais. Morgane Brunet aussi, donc, ça faisait que ton groupe avait hyper rajeuni, donc c'est vrai que d'avoir une fille expérimentée aux côtés de Julie, c'est intéressant.
Exactement, c'est un point fort. En plus, les deux s'entendent très très bien, elles sont très copines, donc ça fait du bien à tout le groupe. Et puis, c'est les anciennes par rapport à des Marie Desangles, à des Hélène Abouvier qui sont juniors, qui sont très fortes, les juniors, qui sont toutes les deux championnes de France. C'est l'avenir, ces deux filles-là. Mais, elles sont un peu mises un peu sous tutelle par les grands groupes là. Et c'est des bons moments, les équipes, c'est vrai que c'est toujours des bons moments, puisqu'il faut se surpasser en équipe, il faut aller battre des gens beaucoup plus forts. Et ça, c'est la magie des équipes, ça. Il y a toujours un moment où quelqu'un qu'on n'attend pas va nous sortir une tête de série, et ça, c'est des bons moments des équipes.
Notamment, d'ailleurs, moi, je me rappelle de votre match de repêchage où il y avait la Lou Lebrun, je crois, contre Chérie Bouc, qui avait fait un match vraiment héroïque, elle avait perdu, mais elle avait vraiment défendu ses chances charmant.
Ouais, s'ils mettent Yppon sur la première action, pour nous, c'est pas volé, quoi. Donc, non, c'est ça qui est intéressant. Mais après, le petit déficit qu'on a, c'est que Julie, c'est pas une lourde, c'est-à-dire que.
Oui. Oui, parce qu'en championnat de France, du coup, c'est plus de, enfin,
c'est plus de 70 kilos.
Ouais, donc, du coup, elle peut prendre une Eva.
Elle peut prendre, et puis en plus, on n'a vraiment pas de chance parce que Julie, sur les premiers tours championnat de France, sur les deux championnats de France, au premier tour, elle prend Léa Fontaine, qui est la numéro 3 française chez les Lourdes et qui est une fille d'un très beau gabarit. Donc, moi, j'ai même pas voulu que Julie monte sur le tapis parce que c'était son intégrité physique n'était pas assurée. Et l'an dernier, on prend Orléans, l'US Orléans en premier tour, qui est une grosse écurie française, et elle prend Julia Tolofoy, la récente médaille mondiale. Donc c'est compliqué. Et même si on y croyait la veille, on y croyait à cette victoire sur Orléans, et je savais que ça jouait sur Julie, et en plus c'est Julie qui ouvrait le bal, celle qui démarrait. Mais en fait, quand les corps se sont rapprochés, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas la même planète.
Combien de kilos d'écart il y avait entre les deux, grosso modo?
Ah, c'est pas bien de parler de ça, mais c'est du simple au double, on va dire.
Ah oui.
Carrément.
C'est un peu ce qu'avait fait Céline Lebrun au JO lorsqu'il y avait les catégories, toutes catégories, où finalement c'était relativement légère et puis elle défilait.
Céline Lebrun, c'est une des dernières filles qui était une 78 kilos, comme Julie, à avoir performé au niveau mondial, hein, parce que en toute catégorie, sur des filles plus lourdes. Mais là, aujourd'hui, le judo mondial chez les lourdes, c'est des filles qui oscillent entre 130 et 200 kilos, et c'est le niveau est monstrueux. C'est vraiment vraiment costaud, et je ne pense pas qu'une mi-lourde comme Julie puisse exister dans ce monde-là. C'est trop costaud, c'est trop dangereux.
Il y a une course à l'armement, Guillaume, pardon.
Oui, forcément. Et puis, voilà, nous, on n'a pas de filles de ce gabarit-là chez nous, on n'en a jamais eu. Et puis là, en ce moment, les lourdes françaises, je peux vous dire que les trois qu'on a là, Dico, Tolofoy et Léa Fontaine. Et puis il y en a d'autres derrière, hein, parce qu'on a une championne du monde junior derrière. On a encore des
ouais, même chez les cadettes, ça a bien performé.
Ouais, c'est chez les cadettes, on a le champion du monde cadette aussi. Ouais. Donc là, il y a un beau vivier de poids lourds de françaises, et c'est vraiment super. C'est des très bonnes judokas, en plus elles font très bien le judo. Donc, tant mieux pour le pays. Hein. C'est très bien, hein. Si on peut régner sur cette catégorie-là pendant de nombreuses années, tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que moi, ça fait pas nos affaires quand Julie affronte des filles comme ça, c'est très compliqué.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Guillaume Avril qui répond aux questions de Christian.
Avant de rentrer sur le tatami de Toulon, moi j'aimerais revenir sur la saison dernière qui a vraiment été une belle saison pour vous. Il y a des champions de France chez les cadets, il y a des champions de France deuxième division, il y a des médailles aussi par équipe cadet, puisque vos garçons ont fait un super résultat.
Nos garçons font troisième sur le championnat de France par équipe, ça c'est super. On l'avait pas fait encore chez les garçons. On avait fait des bons parcours, mais jamais médaillé. On avait été médaillé déjà en passé chez les filles, en cadet, en junior, mais on n'avait jamais fait de médaille chez les garçons. Là, ça y est, on a une belle ossature d'équipe garçons. C'est des bons mecs. Alors sur le papier individuellement, c'est pas les plus forts, mais quand ils sont tous ensemble sur le tapis, c'est vrai qu'on a une belle ossature d'équipe. Et cette médaille, moi j'étais pas avec eux, j'étais à Madrid avec Julie, et on a suivi ça de près. C'était un beau moment de les voir exploser le doigt à la fin. C'est bien. Et puis bon, ça récompense toutes leurs heures d'effort, parce que c'est des gars qui bossent beaucoup, qui sont acharnés au travail. Donc, c'est bien quand ça se finit comme ça, en explosant de joie, quoi. Donc effectivement, il y avait ces moments-là. Bon, il y a Kezia Arvan qui a dominé la catégorie en 90 kilos, qui a fait champion d'Europe et les champions du monde. Et puis on a nos filles, donc nos deux juniors qui ont été vice-championnes de France, Ilana Bouvier et Marie Desangles, en 70 kilos et en 78 kilos, qui ont fait la course après aux champions du monde, mais qui ont vite été dépassées. Donc, elles ont fait une fin de saison plus difficile. On a Marvin Bamana Kibiti aussi, notre junior 73 kilos, qui a fait cinquième. Pour moi, c'est un super moment, parce que c'est un gamin qu'on a depuis tout petit au club. C'est un gamin qui travaille énormément, qui n'avait jamais gagné un combat en championnat de France. Et puis là, ça y est, il était dans le dernier carré, il était en demi-finale du championnat de France. Après, il perd la demi-finale, il perd le bronze, mais il fait cinquième. Mais, c'est un gamin sur qui je mise parce que il a un très beau judo. Il bosse et donc on va suivre ça de près. Là, il a fait récemment deuxième au tournoi de Noisy-le-Grand, donc c'est un tournoi rankiniste chez les seniors, un français, donc il fait deuxième de ce tournoi alors qu'il est encore junior. Donc, lui, c'est une vraie chance de médaille cette année sur les juniors, donc on va s'impliquer à bloc derrière lui pour lui permettre d'aller décrocher cette médaille.
Qu'est-ce qui lui a manqué d'ailleurs pour être qualifié pour les championnats de France là à Toulon?
Alors, c'est la ranking qui décide les championnats de France à Toulon, les règles de qualification. C'est un petit peu compliqué, mais pour faire vite, ce sont les 10 premiers de la ranking liste nationale. C'est-à-dire qu'on marque des points à chaque fois qu'on sort en European Cup, en Continental Cup et sur des tournois à la belle excellence. Et Marvin n'avait pas ce niveau l'an dernier. Maintenant, ça y est, là au mois de septembre, il est dans les points, il rentre, mais ça ne compte pas pour ce championnat de France-là. C'est la saison dernière qui qualifiait pour le championnat de France. Donc voilà, il n'avait pas encore le niveau, mais là il progresse et je pense qu'il sera première division l'année prochaine.
Oui, on espère le voir du coup l'an prochain.
Il a raté la médaille de bronze au championnat de France senior deuxième division l'an dernier, quand Morgan Gagne, là, lui, fait cinquième. Donc c'est que le podium qui montait première div. Donc, voilà, il était pas loin. Mais là, ça y est, je pense qu'il est en train de gravir les marches, il prend confiance en lui. Et c'est un gamin qui a pas mal d'impact là à l'assaut. Il commence à être vraiment, vraiment costaud. Et donc voilà. Et puis c'est un beau judoka, c'est-à-dire que c'est agréable à regarder ce qu'il fait. Donc, voilà, on espère que ça va matcher pour lui. puis chez les jeunes, bon, on a des gamins qui s'illustrent, là, le petit Pierre Mendy là, qui est intéressant en ce moment, qui a une blessure hier, qui vient de faire 3 à Clermont-Ferrand ce week-end. C'est vraiment intéressant aussi. Ouais.
Et puis le dénominateur commun à toute saison, c'est l'équipe féminine qui était encore au championnat de France par équipe au mois de juin ou au mois de mai, il semble, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est pas 9e place, ça fait 15 ans qu'on oscille entre la 5e et la 9e place.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette équipe-là, finalement, elle mêle un peu toutes les générations. Il y a des Julie Pierret qui commencent à être expérimentées et tolières, et puis il y a des petites jeunes qui bossent derrière.
Ouais, exactement. Et ouais, c'est ça qui est intéressant. Et après, ben, c'est le baptême du feu, il est toujours difficile, hein, quand on vous mettez junior 1, junior 2 quand vous les alignez sur une équipe de première division. C'est dur, c'est impressionnant, c'est là qu'on fait ses armes, mais c'est aussi là qu'on peut se révéler, c'est aussi là qu'on peut prendre confiance. Donc, ça fait partie du jeu, hein, on aura une équipe un peu renouvelée, mais bon, voilà, c'est pas une équipe qui est facile à prendre, donc, on verra ce qu'on prend.
Bon, par rapport au championnat de France qui auront lieu donc à Toulon le week-end prochain, donc tu as 5 combattantes, si je dis pas de bêtises.
Alors j'ai 4 combattantes sûres et j'en ai une 5e en attente, c'est-à-dire que j'ai fait une demande pour Ilana Bouvier, on va voir le résultat. Ilana Bouvier, donc c'est ma vice-championne de France junior, 78 kilos, même catégorie que Julie.
Qui avait fait deuxième d'une Coupe d'Europe junior il y a quelques mois.
Exactement, puis ensuite elle, au moment des sélections pour ce championnat de France première division, elle avait été victime d'une commotion cérébrale, donc écartée des tapis pendant un mois, et elle avait fait sa reprise le jour des championnats de France deuxième division, donc elle avait fait le championnat de France sans aucune préparation, elle avait pris la 5e place, donc elle rate la 3e place qualificative pour la première division. Là je voulais qu'elle fasse une belle entame de saison, donc j'attendais pour faire la demande, et puis là ce week-end elle a gagné Clermont-Ferrand, ce qui fait qu'elle prend la tête de la rankingiste nationale junior en 78 kilos, et donc c'est un argument de poids, je trouve, pour justifier cette demande de hors quota pour qu'elle participe au championnat de France à Toulon. J'attends la décision de la fédération. Quelle que soit la décision, peu importe, moi je fais une demande, on verra ce qu'ils font. Je sais qu'ils n'aiment pas ce genre de demande, mais ce qui est logique, hein, je suis assez contre aussi. Mais là c'est vrai qu'elle a des circonstances atténuantes, cette petite Ilana, donc c'est une combattante intéressante. On verra si elle est qualifiée, mais on en a 4 sûres. Donc on a Manon Desfarges en 48 kilos, qui est une jeune junior elle aussi, et elle fait 3e au France 2D l'an dernier. On a donc Morgane Arthuis en 57 kilos, on a Julie, on a Marie Desangles, et on aura peut-être Ilana Bouvier.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, et 90.7 à Ruffec, mais aussi sur attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30, nous retrouvons Guillaume Avril en compagnie de Christian. Christian, c'est à toi, mon grand.
Oui, donc 4 voire 5 judokas, j'imagine qu'elles auront des ambitions différentes. Julie, c'est vrai que Julie est deux fois championne de France, et puis c'est vrai que par rapport à d'autres judokas comme Manon Desfarges, ça va être la première participation chez les grands. Qu'est-ce que peuvent viser chacune de tes filles du coup?
Ah, c'est compliqué. Le tirage au sort est déterminant. Une petite Manon, elle est trop jeune encore pour faire un gros parcours sur ce championnat, mais
c'est. En tout cas, l'expérience est toujours bonne à prendre.
L'expérience est toujours bonne à prendre, et puis il faut à un moment se confronter à ce genre d'athlètes. Morgane, j'espère un parcours, j'espère une entrée dans les 5. J'y crois vraiment. Julie, elle a déjà 6 médailles, donc pourquoi pas la 7e, et puis du plus beau métal possible. Marie Desangles, elle, petit souci de genou, elle aussi, donc elle a été réopérée en début d'été. Elle était en centre de rééducation au mois de septembre, donc là la reprise est plus difficile pour elle, donc on verra son état, mais ça sera compliqué quand même ce championnat de France. Et puis Ilana Bouvier en 78 kilos, je demande à voir, parce que si elle est qualifiée, elle a déjà battu des filles qui ont fait 5e sur le chemin de France première div. Elle est surprenante, ça dépend du joueur. Donc j'attends de voir. C'est une fille d'un beau gabarit là, qui fait un peu plus de 1m80. Bon, j'ai un affect particulier avec elle parce que je combattais avec son père à l'époque, on était copains, on combattait dans le même club, donc c'est marrant de venir à son pince, et ça me fait plaisir d'avoir sa fille dans mon club et d'essayer de l'accompagner le plus haut possible.
Oui, puis c'est vrai qu'elle a fait aussi des belles performances, notamment moi j'avais subi ses combats en Coupe d'Europe Junior, finalement elle avait été pratiquement stoppée que par Lieke Derks, la hollandaise, hein, qui avait gagné la finale contre elle, il me semble que c'était à Lignano en Italie, et puis elle l'avait battue aussi en demi-finale à Nanterre, si je dis pas de bêtises, donc du coup elle a montré des choses hyper intéressantes.
En fait, Ilana, elle s'est écroulée sur la fin de saison, c'est-à-dire que les saisons sont longues pour les athlètes et ils courent après la ranking senior, la ranking junior, ça combat tous les 15 jours. séquences d'entraînement sont dures et c'est vrai qu'Ilana, après son titre de vice-championne de France junior, ça s'est mis à elle a été émoussée, elle était moins performante, moins d'envie, ce que je peux comprendre, hein, on a discuté, bon, les athlètes à un moment, quand ça explose, hein, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, on avait beau discuter, on avait beau essayer de la relancer, c'était compliqué, on sentait que voilà, la saison pro était pliée, donc bon, bah, c'est comme ça, mais cette année, c'est vrai que il faut qu'elle se concentre là-dessus et il faut vraiment faire pour elle la saison démarra au championnat de France junior et qu'elle jouera la saison internationale.
Histoire qu'elle combatte vraiment avec les filles de ces catégories d'âge.
Mais c'est une catégorie qui est absolument monstrueuse en ce moment au niveau mondial, puisque au dernier championnat du monde senior à Tashkent, c'est une junior, hein, l'Ukrainienne qui fait troisième. Cette Ukrainienne perd régulièrement sur une autre Allemande qui a 20 ans aussi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un vent de fraîcheur sur cette catégorie de 78 kilos. Et c'est dur, c'est très très dur. C'est-à-dire que le niveau mondial junior est très proche du niveau mondial senior dans cette catégorie-là. Donc pour Ilana, la marche est haute, quoi. Donc il faut qu'on s'accroche. On vit un petit peu la même chose avec Marie Desangles, qui est une des meilleures juniors françaises en 70 kilos, mais ce niveau-là, le podium mondial junior, c'est encore une autre étape. C'est-à-dire que nos filles sont encore encore loin de ça, mais il faut bosser, il faut s'accrocher.
D'ailleurs, une question par rapport au judo global. C'est vrai qu'on a assisté notamment à la fin des années 90 dans le vélo, par exemple, où avant c'était que les Français, les Italiens, les Belges et qui gagnaient. Est-ce qu'il y a eu une explosion des nationalités? Parce que c'est vrai qu'avant en judo, on voyait souvent les Japonais, les Français, les Cubaines aussi qui étaient vraiment très fortes. Est-ce qu'il y a eu une mondialisation du judo?
Alors il y a une réelle mondialisation du judo. Les Japonais dominent toujours le monde, hein, ça c'est une évidence. Ils ont encore fait un championnat du monde brillant à Tashkent il y a 3 semaines. Eux ils dominent. Alors ils dominent dans les catégories légères, c'est-à-dire de chez les filles de 48 à 70 kilos, c'est très costaud. Chez les garçons, ils ont vraiment des vedettes. Takato en 60 kilos qui est champion olympique, double champion du monde. 66 kilos, ils ont le doublé, hein, ils ont la finale complète entre Maruyama et Abe. Enfin, ils ont des athlètes extraordinaires qui sont beaux. Quand on voit du judo fait comme ça, on peut s'émerveiller. Donc eux dominent le monde. Ils ont vraiment une école. C'est au-dessus de tout le monde. La France, historiquement, était une très grosse nation. Là, on pêche un petit peu en ce moment. Aucun garçon dans les 7 au championnat du monde. C'est une première. On n'avait jamais vécu ça.
C'est un trou générationnel, Guillaume.
C'est difficile. Nous, ça nous fait de la peine parce qu'on, c'est jamais de la faute des athlètes. Les athlètes, ils bossent. Je sais que les mecs sont investis, qu'ils ont tous envie de briller, de faire honneur un peu au pays. Mais non, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a des réformes à faire et des choses à changer. Chez les filles, on a une équipe de France brillante, mais qui n'a pas été si brillante que ça à Tashkent. Donc, c'était le premier championnat du monde après les Jeux Olympiques. C'est vrai que ces Jeux Olympiques, ça a décalé un petit peu tout le fait qu'ils soient repoussés d'un an. C'est dur, hein, pour des athlètes olympiques de se remettre dedans et de repartir sur un championnat du monde aussitôt. Mais là, la course pour les Jeux de 2024 est lancée. Donc, il faut relancer la machine. Là, c'était pas un beau championnat du monde. Après, moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants. On est juste malheureux de voir que notre équipe de France est pas au mieux. Et on espère que ceux qui sont en haut, là, les internationaux, vont mettre ça d'aplomb pour qu'on brille quand même chez nous à Paris, quoi. Donc, parce qu'on a de beaux athlètes. Ouais. On a des gens à très fort potentiel. Donc, on espère que Rinner sera en forme, on espère que Clarissa Gagnon sera revenue, on espère que tous ces grands champions seront présents. Et puis, il faut que la jeune garde arrive à bousculer un peu la ranking mondiale et à s'imposer au premier plan. Mais c'est très, très dur. Les Géorgiens, les garçons, là, c'est monstrueux. Et encore, il n'y avait pas les Russes, hein, sur ce championnat du monde. Donc, imaginez si les choses s'améliorent et que les Russes participent aux Jeux de Paris. Ça rajoute encore de la concurrence. Donc, le judo est mondial. La performance, la médaille mondiale ou olympique, c'est une performance de très haut niveau.
Et puis le problème, c'est qu'il n'y a aucun combat facile. Dès le premier tour, on peut se prendre un Coréen complètement inconnu sur la scène européenne ou internationale et qui finalement a beaucoup de qualité et qui est très compliqué à battre au final.
Complètement. Et puis là,
les combats sont compliqués.
Et puis on a des catés très homogènes. En regardant 81 kilos, en 81 kilos, vous avez 5-6 mecs qui sont champions du monde ou champions olympiques. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que sur les dernières années, ils sont 5-6, peut-être voir. 5-6 à avoir été champion du monde, quoi, ou gagner les Jeux de Tokyo. Donc, imaginez quand ils se rencontrent ces gens-là. Bah, les autres, tant pis pour eux, quoi. Enfin, c'est compliqué. 90 kilos, c'est pareil. Hein. Ils sont plusieurs à avoir le dossard rouge de champion du monde. C'est assez marrant de les voir se confronter. Il y a des combats superbes. Il y a des combats qui marquent l'histoire du judo, parce que c'est vrai que les mecs là, ça.
Finalement, Teddy Riner, c'est un ovni dans tout ça, parce que lui, il a une longévité qui est incroyable. Et là où tu dis qu'il y a 5, 4, plein de champions du monde, plein de champions olympiques, ça veut dire que c'est pas toujours le même qui gagne, alors que lui, il a une super longévité.
Ah ouais, c'est quelqu'un d'absolument énorme, Teddy
Riner. Quel âge il aura d'ailleurs sur Paris?
Je pense qu'il a 33 ans aujourd'hui là, je pense.
Pas mais donc il aura 35 ans en 2024.
Il aura 35 ans pour un judoka, c'est très très vieux, même si chez les poids lourds il dure un petit peu plus que les légers. Mais c'est vieux, la route est encore longue pour Teddy. On voit qu'il a des petits pépins physiques, on voit que bon, il après c'est une immense star, il a fait du bien au judo. Hein, c'est
oui, tout à fait.
C'est super. Mais après, c'est un athlète hors du commun. C'est 2m04, 150 kilos. C'est vraiment un bel athlète. Et donc, il aura écrasé la catégorie toutes ces années-là. Mais c'est très rare d'avoir ça. C'est-à-dire que on a Ono, le japonais en 113 kilos, qui fait la même chose, qui est invaincu depuis des années. Partout où il sort, il gagne. Mais après, quand les japonais sortent le numéro 2, ils gagnent aussi. Donc, ils ont un réservoir qui était le.
Au final, le plus compliqué, c'est le championnat du Japon, c'est les sélections japonaises.
Le championnat du Japon, on regarde en 66 kilos, Abe, Maruyama, ils ont même pas réussi à les départager parce qu'à chaque fois qu'ils les faisaient sortir, ils gagnaient. Les deux ont été champions du monde, les deux ont tout gagné. Donc, ils ont décidé de faire un combat au Japon qui a duré 15 minutes. Combat très accroché pour dire, bon, ben, tiens, c'est Abe qui gagne, c'est lui qui allait au jeu. Il a gagné les jeux. Là, il sortait deux au monde. C'est la finale des champions du monde. C'est-à-dire que ces deux-là, c'est les deux meilleurs du monde. Personne ne peut rivaliser avec ces gens-là. C'est magnifique. Donc, on peut être admiratif de ça. Et c'est vrai qu'ils ont des stars, là. Ils ont des gens qui tiennent le choc, quoi.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac et 90.7 à Ruffec, mais aussi sur attitudefm.com. C'est Culture Sport. Votre émission, chaque lundi, 19h-20h30, nous retrouvons Guillaume Avril en compagnie de Christian. Christian, c'est à toi, mon grand.
On va le répéter, mais c'est vrai que la couronne Grand Anjou, quand Angoulême Judo, c'est bien sûr le dojo de la couronne, le dojo historique du club. Et vous avez aussi 11 autres dojos en Charente, ce qui vous fait donc 12 dojos. Comment on gère justement le fait d'avoir 12 dojos parce que j'imagine que c'est compliqué. Peut-être que les entraînements doivent pas forcément avoir lieu aux mêmes heures, aux mêmes jours, suivant les dojos. Puis il faut bien sûr l'encadrement nécessaire pour dispenser des cours.
Alors c'est pas si compliqué. Puis moi c'était un moyen qui m'a permis de faire des emplois à temps complet pour professionnaliser des professeurs, c'est-à-dire avoir des gens qui pensent judo du matin au soir, ça c'est bien. C'est des gens qui sont investis, qui ont les salles en responsabilité, hein, c'est-à-dire qu'ils interviennent seuls dans leur salle et voilà. Et Bertrand il a mangé, puis bon, c'est avec moi la couronne, Fanny elle a la 4 autres salles sur Fanny Guillaume, etc. C'est-à-dire que voilà, ils sont en charge et en responsabilité de leur dojo. On a des retours quand il faut que tout le monde soit content, tout le monde y trouve son compte. Et c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien. Et puis là on a Thomas Destin qui nous a rejoint, qui vient de Normandie, qui lui a récupéré la salle de Ruffec. Donc voilà, tout ça c'est bien, les mecs font leurs armes et puis il faudra qu'ils s'habituent à faire sans moi les prochaines années. Donc voilà, faut que ça passe un petit peu les générations.
Est-ce qu'il y a d'autres de gens qui seraient potentiellement candidats, Guillaume?
Non, pas pour l'instant. On est sur un rythme de croisière. On est à peu près 700 licenciés. On a dépassé les 700 licenciés la saison dernière. Pour l'instant, on absorbe ce travail-là. On n'en veut pas plus. C'est dur. 700 licenciés, c'est dur. Donc, ça nous suffit. Voilà. Si après, il y a d'autres main-d'œuvre qui arrivent, on verra. Mais bon, pour l'instant, pas plus. Nous, on ne peut pas faire plus.
Oui, parce qu'en plus, il y a les entraînements, mais il y a aussi les compétitions. Je sais que t'es parti un peu tous les week-ends sur les compétitions, que ce soit l'international ou sur le sol tricolore. Les entraîneurs, finalement, n'entraînent pas que sur les entraînements, ils suivent aussi des athlètes en compétition.
Ouais. Le club participe à 80 compétitions par an, donc il y a que 52 week-ends, donc vous imaginez bien que...
Ouais, il y a plusieurs fronts par week-end, parfois.
Il y a plusieurs compétitions par week-end, c'est loin, c'est du déplacement, c'est des heures de sommeil, enfin, je ne vais pas faire mon calibre. J'adore ce que je fais, hein, y a pas de souci, mais bon, faut tenir le rythme quand même. Et bon, voilà, après, c'est passionnant, hein, y a pas de souci, mais c'est prenant. Et puis, bah, les années passent, on se refuse aussi un petit peu, donc voilà, il faut. Moi, j'attends avec impatience le retour de Julie quand même pour nous filer un coup de main au club.
C'est vrai que nous, Guillaume, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis même, t'étais bien entraîneur bien avant que je franchisse les ports du dojo. Est-ce que t'es toujours animé avec par la même passion depuis par exemple Luis Reynaud qui va au championnat du monde junior du côté du Maroc ou en Afrique du Sud? Est-ce que t'es toujours animé par la même passion, ou après toutes ces années il y a peut-être un petit je sais pas trop comment le définir, enfin
un besoin de respirer?
C'est pas une lassitude, on a toujours alors c'est comme un vaccin, quand on a vécu une émotion, bon, il nous en faut plus la fois d'après, donc c'est ça. On a vécu les titres de championne de France. Moi, au début, je m'enthousiasmais pour un titre de champion régional minime, hein. C'est-à-dire que j'avais une émotion quand un des minimes gagnait le championnat de Poitou-Charentes. Et après, les marches ont grimpé. On a eu les champions de France, on a eu des médailles européennes, on a eu des choses comme ça. Et à chaque nouvelle étape, c'est extraordinaire. Après, là, on est quand même sur un plafond au club. Ça m'étonne. Enfin, j'aimerais bien avoir une sélection au championnat d'Europe ou au championnat du monde un jour, mais la marche est dure, quoi. Donc, je pense que là, on est, on atteint un petit peu nos limites et donc bon voilà, après moi j'ai vécu tout ça. Bon, j'aime, hein, quand il y a de nouveaux talents qui arrivent, quand je vois des jeunes gagner chez les petites catégories, c'est super aussi, quoi. Mais bon voilà, après les années passent, c'est comme ça.
Ouais, et puis les années passent, et puis les générations passent aussi, parce que c'est vrai que tu te retrouves avec des Louise Reynaud sur le tatami, les Sœurs Pierret, et puis maintenant c'est des nouvelles générations, et puis ce qui est bien dans le judo, c'est qu'il y a toujours le respect envers l'enseignant, et les générations passent, mais Guillaume Avril reste un mythe pour tous ces jeunes.
Je ne suis pas un mythe, non, je suis pas du tout. Ça fait 20 ans, hein, quasiment que je fais ça, je vais continuer, mais voilà, si Julie peut venir nous donner un coup de main, ça sera avec plaisir. C'est une grande championne, elle a de super qualité d'éducatrice, hein, c'est son métier aussi, donc voilà. Il faut qu'elle vienne s'investir et prendre le relais un petit peu.
Ouais, parce que c'est vrai que Julie, finalement, elle a suivi TEPA, elle est aussi prof de PS comme toi, elle a passé ses diplômes d'entraîneur, donc au final, vous avez à peu près la même trajectoire.
Ouais, c'est la même trajectoire, même au niveau des genoux, c'est la même trajectoire, il n'y a pas de problème. Ouais. J'aurais préféré qu'elle ne me copie pas, par contre, sur ce domaine-là, mais c'est la même trajectoire, mais bon, après, c'est ses choix à elle, hein, elle n'a pas fait pour me renseigner, hein, c'est ses choix à elle. Mais bon, elle est faite pour ça. C'est vrai que ça passe bien. Elle passe bien avec les jeunes. C'est quelqu'un d'avenant. C'est quelqu'un de qui vit, quoi, qui met une bonne ambiance. Donc pourquoi pas, quoi. Si elle est mutée près d'ici, ça sera avec plaisir qu'on lui laissera la place, quoi.
Oui. D'ailleurs, je vais être taquin et un peu mauvais esprit et de mauvais goût. Je m'excuse d'ailleurs auprès de Julie. Mais c'est vrai que il y a deux titres de championne de France, mais il y a aussi deux ruptures des croisés. Donc là, il y a deux partout entre les France et les genoux. Donc il faut absolument qu'elle nous ramène un troisième titre.
Et puis toujours consécutif au titre, quoi. C'est-à-dire qu'elle a eu une rupture des croisés toujours consécutivement au titre de championne de France. C'est rageant parce que mon championne de France.
Ça te laisse un petit goût de, même si ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait encore, c'est super génial, hein. Mais ça te laisse un petit goût amer malgré tout.
Alors moi, ce que je lui dis à chaque fois quand elle est dans le dur, je lui dis, Julie, ce que t'as fait, c'est exceptionnel. Tout le monde rêverait d'avoir 6 médailles première Live et puis peut-être bientôt 7. Voilà, il faut respecter un petit peu les performances. C'est beau ce qu'elle a fait et c'est pas fini. Donc je sais qu'elle veut faire encore 2 saisons et se donner les moyens. Et on va l'aider pour finir en beauté. Mais c'est vrai que c'est rageant de se blesser au moment où les portes s'ouvrent pour elle. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en 2016, quand elle gagne, Malonga est 5e et 2 ans après, Malonga est championne du monde. elle a été championne olympique aux derniers Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est rageant, mais c'est comme ça. Ça fait partie du parcours. Chacun son chemin. Mais en tout cas, elle pourra se retourner et dire que ce qu'elle a fait est quand même très beau et très respectable.
Oh, et puis elle a gagné le droit d'avoir son portrait comme Louise au dojo de
la Oui, on en a loupé des portraits parce que c'est vrai qu'on avait pris cette habitude là et il en manque parce qu'on en a eu un paquet, je crois, en France. On n'a pas pris le temps de faire les choses, mais effectivement, voilà, génération passe, ça avance et puis j'espère qu'on aura des athlètes de la même qualité dans le futur. Ça a l'air bien parti, hein. On a des jeunes super là, qui bossent, donc on verra.
D'ailleurs, Guillaume, je ferai un dernier retour sur le rétro en arrière. Si tu avais une émotion à garder vraiment de ces 10 années, même plus que sur les France, sur le, est-ce que tu choisirais plus par exemple la participation en Géorgie du La Couronne Grand Angoulême Judo avec d'ailleurs Maria Santraciu, hein, qui a été d'ailleurs médaille de bronze au JO. Ouais. Est-ce que tu gardes cette participation là, ou est-ce que tu gardes vraiment l'émotion d'avoir vécu deux médailles pratiquement instantanément sur les France?
Ah, j'ai eu de très belles émotions. J'ai eu des moments qui m'ont vraiment fait vibrer. J'ai eu la première médaille, première édition de Louise, qui m'avait vraiment ému. C'était extraordinaire. Et puis la plus belle émotion, je dirais que c'est les deux sœurs Piré qui sont médaillées à Marseille en 2013. Ouais. Ça c'est le moment où vraiment on avait traversé des périodes très difficiles. On a dû C'était dur pour elles à ce moment-là, dans leur vie personnelle, et les voir comme ça malheureuses, bon, c'était dur de les voir comme ça, et les voir briller ensemble. C'est des sœurs qui sont très fusionnelles, qui sont très très, très proches, et à 5 minutes d'intervalle, elles me décrochent la médaille de bronze. C'était extraordinaire, je crois que c'est... Ah ouais, ça sera ma plus belle émotion. La Géorgie, la Coupe d'Europe, la sélection, c'est une belle émotion, mais après la compétition a été plus dure parce qu'on a vécu un vol manifeste, parce que là on s'est fait avoir comme des bleus. On devait être en finale de cette Coupe d'Europe et il y a des trucs qui se passent des fois que je maîtrise pas, mais bon voilà, il faut revenir sur ces parcours exceptionnels de Claire, de Julie. Cette médaille était belle. Cette médaille était, voilà, c'était le beau moment. Et puis après, Julie, c'est ce qui l'a lancé. C'était sa première médaille, première div à elle. Et ça l'a lancé après sur la carrière qu'on connaît. Donc, voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres de médailles, première div avec d'autres athlètes. Parce que, voilà, c'est ce qui fait aussi la qualité d'un club. Hein. C'est pas de réaliser 10 médailles avec une athlète, mais c'est de réaliser 10 médailles avec 10 athlètes. C'est mieux.
Ouais, tout à fait. Et puis, c'est vrai que moi, j'en jetterais aussi là, votre finale de 3 là, sur les championnats de France par équipe. Il y a quelques années, diffusé en plus sur la chaîne L'Équipe à ce moment-là, ouais, où vous finissez du coup 5e, ce qui a été aussi votre plus belle performance et un parcours historique.
Ouais, c'était super. On avait battu des grosses écuries comme Orléans à l'époque, des équipes comme ça, et les filles s'étaient sublimées. C'est ça la magie des équipes. Et puis après, en place de 3, par contre, on est revenu à la réalité. On a rencontré le Valois Sporting Club, qui était une des dernières équipes du moment. Voilà, c'est comme ça, on fait 5e, mais il faut voir d'où on vient, il faut voir les budgets qu'on a. La couronne, c'est des athlètes qui viennent sur un rayon de 20 km, hein. C'est pas non plus, si on avait plus de moyens, et on ferait plus, mais voilà, c'est que des gens qui sont charentais, hein, qui font beaucoup.
Oui. Et puis malheureusement, alors c'est peut-être un sujet qui fâche ou pas très sympa à aborder, mais malheureusement vous perdez aussi des athlètes. Je pense malheureusement à Kezia qui est parti dans un club parisien. Il y a aussi Manoa, oui, Dumont qui était parti dans un club parisien. Julie Veilly-Moré qui était partie vers Bordeaux. Puis certaines d'autres qui ont arrêté. Vous formez des jeunes qui partent pour d'autres cieux ou qui arrêtent. Et ça,
c'est en fait le cool. Le judo français est concentré à Paris, c'est-à-dire que les permis d'accès au niveau c'est pour finir à Paris à l'INSEP. Et donc les gros clubs surfent autour de l'INSEP. Cette proximité géographique fait qu'ils recrutent un maximum d'athlètes. Ils ont des moyens financiers colossaux, hein, par rapport à nous. Donc c'est vrai que pour eux c'est très facile d'aller acheter un jeune et puis de... Alors, ils nous pillent à chaque fois, mais ça, on le sait, hein, ça fait partie du jeu. C'est comme
ça. C'est la
rare
forme de succès en fait.
Ouais, je m'en passerai de celle-là, mais bon, oui, c'est comme ça. Après les gens, ils font leur parcours, hein, ils font leur vie. Je veux dire, s'ils gagnent, tant mieux pour eux, ils ont eu raison. Moi, je leur souhaite. Hein, c'est comme ça. Après, là, les deux sont partis au Paris Saint-Germain. C'est la grosse écurie du moment. C'est un budget à plusieurs millions. Enfin, bon, voilà, on joue pas dans la même cour. Le tout, c'est que ça gagne à la fin. C'est que le parcours, ils ont fait leurs objectifs, qu'ils deviennent des grands champions. C'est vrai que nous, sur le coup, ça nous fait pas plaisir. C'est vrai que voilà, là, on a une équipe junior. Si on avait gardé ces deux mecs-là, c'est une des meilleures équipes françaises, une équipe junior garçon. Mais bon, voilà, c'est. On fait partie du jeu, on en a perdu d'autres avant eux, hein. On a perdu d'autres athlètes avant eux. Certains, comme tu le disais, ont arrêté, certains continuent et sont pas dans le circuit. Voilà, c'est le parcours du judoka. Moi, j'ai pas de leçon à donner, hein. Vous savez, j'ai fait la même chose à leur âge, hein. Donc, on est allé vers les clubs parisiens aussi. Donc, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'une des réflexions à mener, c'est de décentraliser quand même le haut niveau à un moment pour qu'on ait un championnat de France qui laisse l'accès aux clubs de province, quoi. C'est-à-dire que c'est le jour où on passera à la professionnalisation comme le foot et le rugby et où chaque écurie formera ses athlètes, on aura un championnat de France qui ressemblera à quelque chose.
Parce que c'est vrai que là, au final, c'est quand on en prend le top 9, c'est pratiquement que des équipes d'Île-de-France.
En fait, les hommes ou les femmes. Ce sont que des équipes d'Île-de-France et de temps en temps, des clubs comme la Couronne viennent s'introduire.
Ouais, Limoges, Mulhouse, des choses comme ça aussi.
Limoges, voilà. Alors, Peugeot Mulhouse, à l'époque, c'était un club parisien parce qu'ils avaient une plateforme à Paris, en fait.
Hein, d'accord.
C'était un club parisien. Mais bon, voilà, des clubs comme Marnaval, des clubs, le club de Clergé, voilà, c'est des clubs formateurs. De temps en temps, et on arrive à rentrer dans ce top 7. Mais bon, voilà, on peut pas lutter. C'est les équipes qu'on rencontre, c'est une concentration de champions.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac et 90.7 à Ruffec, mais aussi sur attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Guillaume Avril en compagnie de Christian.
Au rayon des renforts, moi j'aimerais qu'on parle d'un renfort que vous avez eu il y a quelques années. Alors je l'ai jamais vu combattre, je l'ai vu par contre entraîner. C'est Thomas Rouquette, c'est un journaliste qui écrit dans l'Esprit du Judo, donc c'est la revue du judo. C'est la revue principale du judo. Ouais. D'ailleurs, a fêté son numéro 100 il y a pas très longtemps.
C'est une belle revue parce que c'est voilà, on sent que c'est écrit par des passionnés de judo, donc les reportages qu'ils font sont très sympas. Et Thomas, effectivement, est venu renforcer l'équipe d'encadrement il y a quelques années maintenant. Et c'est quelqu'un qui a un parcours universitaire intéressant. C'est quelqu'un qui a une vision du judo. C'est quelqu'un qui a vécu au Japon, qui a suivi la préparation olympique du 73 kilos. No, c'est quelqu'un qui a une vraie culture judo. Et moi, je suis venu changer avec lui. J'aime bien parler des choix qu'on fait avec les athlètes. On discute et il apporte des idées, c'est très intéressant et puis c'est lui qui fait un peu la com au club aussi parce que voilà, on va tout faire, que c'est lui qui comme
ça rajoute de la compétence au club aussi.
Ça rajoute de la compétence et donc ça c'est quelqu'un de très agréable qui m'entend très très bien.
Et puis le point commun que t'as avec lui, c'est que enfin on a certainement plusieurs, mais c'est que vous êtes vraiment deux passionnés de judo et que c'est bon. Moi, je sais que j'aime bien parler avec vous parce que Thomas est hyper intéressant quand il me parle de jeunes Français qui peuvent potentiellement être des concurrents à Kaiser Arvante que je ne connaissais pas encore à cette époque-là. Toi, Guillaume, t'es super intéressant parce que tu rends finalement le judo accessible et par tes explications. Donc c'est vrai qu'au final, vous êtes deux gros passionnés de judo.
C'est-à-dire qu'on admire les champions, on admire les beaux gestes, on admire le beau judo, on aime cette activité par-dessus tout et c'est vrai qu'on aime commenter comme les gens commentent les matchs de foot, hein, tu sais. Nous on est judoka, donc on commente les événements de judo, on essaye de tirer de faire nos analyses. On essaye de s'en inspirer, on essaye de voilà, notre petit niveau, on essaye voilà, de mettre en œuvre pour aider le judo français et faire avancer le plus possible. Tu sais, quand on a des athlètes comme les nôtres, c'est peut-être pas les numéro un français, mais c'est des gens qui combattent avec les numéro un français et qui quelque part les rendent plus forts. Et puis c'est cette émulation qui fait que l'équipe de France.
Ah, petite coupure.
Oui.
Ouais.
C'est bon.
C'est bon.
Ouais. Donc,
je dis voilà, à notre petit niveau, on essaye de produire les athlètes les plus efficaces possible. Et parce que cette concurrence qu'elle apporte au numéro un français, c'est toujours positif. Je veux dire, de la concurrence naît une émulation et ça rend la confrontation encore plus forte. Ça, c'est une évidence. Donc on fait ce qu'on peut à notre niveau. Voilà. Et notre niveau, c'est d'être un club charentais. C'est ça.
Vous avez choisi Attitude 98.3, 90.7, mais aussi AttitudeFM.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi, 19h-20h30. Nous retrouvons Guillaume Avril qui répond aux questions de Christian.
Oui, mais du coup, comme je le disais en début d'émission, donc la semaine prochaine, il y a les championnats de France du côté de Dijon, les championnats de France première division individuelle. Mais finalement, pour vous, la saison, elle ne fait que commencer puisqu'on est sur une année scolaire. Donc, en grosso modo, ça reprend au mois de septembre. C'est quoi, du coup, derrière les France, vos gros objectifs de la saison?
Ça sera en fonction du résultat, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de résultat championnat de France pour les athlètes concernés, ça sera terminé. On se concentrera sur les catégories jeunes, puis on se relancera sur la saison senior deuxième division. Hein. Quand on rate la première, il faut se battre en deuxième. Mais non, il y a c'est ça. Et puis après, il y a les équipes qui seront en fin d'année scolaire, donc mai-juin 2023. Ça sera une autre partie. Mais là, pour l'instant, on est vraiment sur la partie individuelle. Et donc, on est sur ce championnat de France qui va être capital pour la suite pour Julie et puis qui va être formateur pour mes jeunes juniors engagés sur ce championnat.
D'ailleurs, par rapport à Julie, donc on sait que le tirage au sort c'est prédominant, un peu comme au tennis. Est-ce que tu penses qu'elle peut être tête de série A et être dans les potentiellement quatre premières têtes de série?
Oui, elle y sera, puisque là en tennis, je crois qu'elle est quatrième en ce moment.
Donc ça lui évite de prendre une des trois premières avant les demi-finales potentiellement.
C'est ça. L'idée, c'est ça. L'an dernier, elle était tête de série, elle avait pris Chomeo en demi-finale. Ça risque d'être encore un tableau à peu près comme ça cette année. Donc on verra. Après, pour être champion, il faut battre tout le monde. Hein. Donc à un moment, il faut y aller. Voilà, là, allez, je vous dis, allez là en ce moment, on travaille, on passe du temps ensemble. Il n'y a pas de raison. Elle est jamais bien avant les événements, donc on met toujours le doute, mais le jour J, elle sera bon.
Bon, si elle n'était pas bien en Slovénie et puis à Malaga, c'est plutôt bon signe pour Toulon.
Ben, elle a fait des journées, elle était très bien en début de journée à chaque fois et elle a toujours raté ce bloc final, donc un vrai travail là-dessus. Et maintenant, Toulon, il y a de l'enjeu, c'est dur. C'est ce championnat de France, c'est un coup de gorge, c'est un passage obligatoire. Et il y a vraiment rien de simple. Donc on y va pour se battre et on verra ce qui est le résultat.
Oui, puis c'est vrai que il y a la ranking list nationale, donc c'est un peu la hiérarchie nationale, mais c'est vrai que cette hiérarchie finalement elle peut être battue en un jour si un coup d'éclat.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le judo, c'est comme ça. Le judo, c'est ingrat. On peut être balayé très rapidement. Donc, c'est dans les encausses permanentes. Julie, elle a 27, 28 ans. Hein, elle commence à vieillir, elle aussi. Donc, voilà. On va faire du mieux qu'on peut. Mais moi, j'y crois. La médaille, j'y crois. Et plus, c'est possible. On l'a dans les cordes.
Bon, ben, si tu y crois, on y croit aussi, alors. Hein.
Voilà.
Tu prêches des convaincus là.
Ouais, bah écoutez, on espère vous ramener une belle médaille de là-bas.
En tout cas, vous aurez tout mis en œuvre pour ça, non?
Exactement, ouais, on aura travaillé, ça, on peut pas nous faire le reproche, on y aura passé des heures, et donc, il n'y a pas de raison.
Et puis bien, finalement, Toulon, c'est pas si loin de Marseille, donc ça rappellera forcément des souvenirs de redescendre dans le sud.
Ouais, enfin, c'est loin de la couronne quand même. Hein. On n'est pas gâtés sur les destinations à chaque fois. Là.
Oh, c'est vrai qu'entre Toulon, Marseille, Montbéliard, 50 ans d'écart, c'est pas bien.
On espère que ça viendra un jour, mais c'est vrai que là, nous, c'est loin, c'est du déplacement. Bon, on est habitué, mais c'est toujours aux extrêmes. Là. Mais c'est une première à Toulon, ouais. On n'a jamais été là-bas. On verra.
Tiens, d'ailleurs, par rapport à la proximité géographique, comment se comporte le judo en Nouvelle-Aquitaine? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, depuis que le Poitou-Charentes a été rattaché à l'Aquitaine, maintenant on est dans la même région que Bordeaux, donc potentiellement c'est une grande ville qui pourrait peut-être organiser un gros événement dans quelques années, non?
Alors c'est j'espère qu'ils t'entendent, nous on aimerait bien qu'il y ait une grosse manifestation. Après,
bah, effectivement, ça vous ferait moins de kilomètres à faire.
Parce que c'est des saliments, ça, à chaque fois, il faut des salles. Après, ça pourrait se faire à Carra pour la France première division. Alors après, c'est des lourds investissements à chaque fois, parce que je crois savoir que c'est 200 ou 300 000 euros un week-end de compétition, l'organisation. Donc les gens sont toujours réticents à se lancer dans cette organisation-là, et puis je les comprends, surtout vu la période qu'on traverse. Mais c'est vrai que pour le judo local, ça serait super d'avoir un bel événement comme ça. Ça, c'est pour moi, avec le tournoi de Paris-Bercy, ce sont les deux gros événements du judo français. C'est des beaux plateaux, ça donne envie. Ce sont des beaux champions et moi, je sais, quand j'étais jeune, voir ces championnats, ça m'a vraiment donné envie, quoi. Je me disais, il faut absolument que je sois là un jour parce que c'est ce qui nous donne envie quand on est petit, c'est ce qui nous fait rêver. Et donc, si nos petits Charentais avaient un événement comme ça, ça serait top, quoi. Alors, en termes de Nouvelle-Aquitaine, oui, il y a à Bordeaux, il y aurait quoi faire. C'est une grosse région, l'Aquitaine, c'est la plus grosse région de France, hein. Il y a 50 000 licenciés judo. Il y a du monde, il y a des belles écuries, il y a des très belles écoles. Hein. Limoges, c'est notre copain, c'est une très très belle école de judo. Bordeaux, le Stade Bordelais, c'est pareil, un très beau club. Donc non, il y a des forces en présence sont nombreuses. Donc non. Puis après, c'est une émulation aussi entre nous, hein, qui nous oblige à être meilleurs. C'est bien. Ça, on s'entend plutôt bien.
Oui, puis c'est des clubs que tu retrouves sur les championnats de zone pour te qualifier aux France.
C'est ça, c'est des les patrons de ces clubs-là, c'est des gars avec qui on combattait à l'époque. Enfin bon, voilà, c'est ce qu'il faut aussi. Le judo français, on est prêt, on est en tout ça très sympa, surtout tous les week-ends autour des tapis. C'est des bons moments d'échange, de discussion. On charrie, on rigole. Enfin bon, voilà, ça fait partie de la vie du folklore du judo.
Guillaume, on sait que le judo est vecteur de tradition. Par rapport à ton époque, quels sont les changements les plus significatifs que tu as observés dans ta discipline ?
Alors ça, c'est un vaste débat. Le niveau monte d'année en année, même s'il y avait une densité de champions plus importante à mon avis à mon époque, puisque c'est factuel, hein, c'est-à-dire que les 3, 4, 5 de chaque catégorie étaient capables d'aller décrocher une médaille européenne à l'époque. Donc on avait une plus grosse densité de champions. Aujourd'hui, ça s'affaiblit un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Alors peut-être l'émergence de nouvelles nations, comme on disait en introduction, peut-être ouais, tout le monde travaille, tout le monde le judo est universel, donc ça rend la performance internationale plus difficile peut-être. Après les rythmes d'entraînement sont les mêmes, hein. Nous on s'est toujours entraîné 4 heures par jour. Les jeunes aujourd'hui, c'est à peu près leur rythme aussi. Tout ça ne change pas. Ce qui est bien, c'est cette internationalisation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'épreuves à l'étranger. On est beaucoup plus en circulation, c'est-à-dire que là, on parlait des échéances. Julie, elle a déjà fait 3 pays, là, pour peu près championnat de France. Donc, on circule plus facilement qu'avant. Mais bon, sorti de ça, non. L'activité évolue de par son règlement aussi. Nous, on attaquait aux jambes, on a le droit d'attaquer aux jambes avec les mains, je parle. Donc aujourd'hui, c'est plus autorisé. Donc la discipline a évolué. Maintenant, je veux pas jouer les anciens combattants. Hein, c'était pas mieux avant. Hein, c'est le judo est quand même beau à regarder aujourd'hui. Non, c'est pas. C'est. Je vous dis, la performance internationale, elle est dure à atteindre. Ça c'est clair.
Justement, l'arrivée de Thomas Destin, tu l'évoquais tout à l'heure avec Morgane Brunet, Morgane Destin, du coup, qui est sa femme. C'est des professeurs qui t'arrivent de Normandie avec quelques adhérents supplémentaires. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi d'avoir entre guillemets du renfort.
Exactement, c'est une belle chose. Alors eux, c'est une aventure. Malheureusement, eux, ils ont, comme tu l'as dit, ils étaient installés en Normandie. On est très copains puisque sa femme a combattu dans notre équipe de nombreuses années. C'est le club de Lucas Makidze, tout simplement, hein, le dernier médaillé olympique de Tokyo. Et Thomas, donc, ils ont perdu leur dojo, tout simplement. C'est-à-dire que la mairie leur a dit un jour, voilà, votre salle, c'est plus un dojo, c'est terminé, donc ils ont tout perdu. Et donc, Thomas m'a appelé, il y a de la place chez toi, pardon, j'ai dit, fou. Et il m'a dit ça au mois de juin, quoi. Donc j'ai dit, on s'est organisé rapidement. Et on a essayé de les accueillir au mieux, avec les moyens qu'on a, parce que c'est des gens qui sont passionnés de judo. Voilà. Et moi, c'est important pour moi que mes collègues soient passionnés de judo. C'est des gens qui mangent judo, qui parlent judo du matin au soir, et moi, je connais très bien Morgane. Donc, on les accueille avec plaisir, et puis effectivement, les athlètes ont suivi aussi, donc ils ont leurs athlètes avec eux. C'est bien sur le tapis pour les autres, parce que, voilà, c'est des gamins super, en plus, voilà, c'est des gamins bosseurs, bien élevés, ils ont les mêmes valeurs que nous, donc ça va très très bien, ça y est, ils sont plus normands, ils sont couronnés,
oui.
et ça crée une vraie émulation sur le tapis. Et voilà, ça, c'est parti, quoi. Donc voilà, on verra l'avenir, mais je suis très très confiant. Et non, c'est un vent de fraîcheur. Donc lui, il est en charge d'organiser des stages sportifs, d'organiser des compétitions, etc. Ça va être son travail à Thomas. Donc c'est ce qui manque un petit peu au club. Donc voilà, ils vont nous mettre tout ça en place et ça renforcera le club.
Et la dernière question, je voulais évoquer aussi votre section judo-études au Collège de la Couronne. Olisa, c'est quelque chose qui fonctionne bien? Tu es content de l'évolution que ça prend?
Ah, j'aimerais avoir plus d'athlètes parce que les établissements refusent par rapport au bulletin scolaire, on va dire. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça fonctionne depuis des années. Et c'est le passage obligatoire pour performer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas performer si on s'entraîne 2 fois par semaine, c'est impossible. Donc c'est un des outils qu'on a pour permettre aux jeunes de s'entraîner plus, pour essayer de performer le plus tôt possible.
Guillaume, on te remercie encore 1000 fois d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, merci.
De rien, on a bien compris que les championnats de France à Toulon étaient une étape importante dans la vie du club de la Couronne Géo. Donc on vous souhaite le meilleur.
Et à toi,
qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, grosso modo?
Garder la même passion et puis que ça continue, hein, c'est tout. Hein.
Voilà, éviter les blessures.
Ouais, ben ça, malheureusement, ça dépend de notre fait. On verra. Je suis assez fataliste.
Ok Guillaume, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne chance aux 4 ou 5 couronnaises qui seront à Toulon ce week-end. On croise les doigts et puis on est à fond derrière elles.
Merci beaucoup Christian.